Chapitre 64. La nature avait retrouvé son calme. Côté rivière, la faune nocturne reprenait ses activités. Les herbes bruissaient, l'eau clapotait de temps à autre, et dans l'intervalle, un cri d'oiseau se perdait dans la cime des arbres. Côté jardin, en revanche, le spectacle était moins bucolique. Une fois de plus, la mort et la folie humaine avaient parlé. Stéphane Tranchet gisait dans l'allée, son profil gauche écrasé dans les cailloux, un bras retourné derrière son dos. Charcot lui avait ôté son masque et l'avait jeté au loin d'un geste de rage. D'une certaine manière, cette ordure s'en tirait de la meilleure des façons. Pas de souffrance, pas de procès, pas de peine à purger. Et pour eux, en revanche, les emmerdements. Encore tout un pataquès à gérer, procédures, paperasses, comptes à rendre. Heureusement, le commandant de la BRI lui apportait son soutien et donnait des coups de fil pour organiser la levée du corps. La perquise pouvait attendre, mais il fallait tout de même faire un rapide tour de l'habitation, la refermer et mettre l'entrée sous scellé, histoire d'être carré. Charcot alla chercher la rubalise dans le coffre de sa voiture et, sentant ses coéquipiers au bout du rouleau, se tourna vers eux.
« Vous prenez l'autre voiture et vous filez vous pieuter, tous les trois. Il y en a un qui fait le taxi et dépose les deux autres. Moi, je reste jusqu'à ce que le cadavre soit embarqué et la baraque mise sous scellé. On verra tout ça dans le détail demain. Enfin, on est déjà demain. Bref, fichez le camp. »
Pascal et Nicolas ne protestèrent pas. Lucie, elle, insista pour l'aider, mais Franck ne céda pas.
« Il faut au moins que tu sois là au réveil des enfants. » dit-il pour la convaincre. « Sinon, ils vont oublier qui est leur mère. »
Elle finit par hocher la tête en souriant, l'embrassa et s'éloigna après avoir serré la main de tous les collègues de la BRI. Les gars avaient fait un boulot remarquable. Charcot regarda sa petite troupe partir avec une certaine tendresse. Il savait qu'ils seraient toujours là les uns pour les autres, surtout dans les coups durs. Une solidarité et une amitié qui faisait la force de leur groupe. Le ramenant à la réalité, son homologue, qui s'était approché sans qu'il s'en aperçoive, l'informa qu'il y aurait une bonne heure d'attente avant qu'une nouvelle équipe ne débarque et ne prenne le relais.
« Pour tenir, on a ce qu'il faut dans le camion, » fit ce dernier. « Café, thé ?»« Tout à l'heure. Je vais d'abord visiter l'antre de ce taré. »
Charcot se dirigea vers la maison que la BRI avait déjà explorée. En passant, il posa sa rubalise près de l'entrée. L'intérieur était à l'image de l'extérieur. Grand hall froid au carrelage gris, plafond haut, salon monolithique au mur couvert d'un papier peint ancestral et peuplé de têtes de gros gibier, cerfs, sangliers, biches, dont les yeux semblaient suivre chacun de ses mouvements. Les radiateurs étaient des mastodontes en fonte sur pied. Autour de la télé, des armes étaient accrochées. Des fusils de chasse pour la plupart, mais il y avait également toutes sortes de couteaux, de dagues et de poignards rangés derrière les vitres d'un vieux meuble en chêne. Il planait dans l'air des odeurs de fourrure et de fumée qui émanaient de ces animaux morts. Franck imaginait sans peine Stéphane Tranchet, grimé comme un soldat, embusqué au bord de la rivière ou dans les bois, à traquer des proies avec ses lames et à les dépecer. Un Rambo qui, selon toute vraisemblance, avait un réel goût pour le sang, au travail comme dans sa vie privée. Dans la cuisine, deux congélateurs étaient d'ailleurs pleins à craquer de barbac, de belles pièces taillées dans le vif, emballées dans du papier transparent. Dans la gamelle du chien, non loin, des morceaux de viande émincée et crue. Entre ces congélos et ceux du CDC, il n'y avait qu'un pas. Charcot s'empara alors d'un bloc gelé, l'observa attentivement, puis le remit à sa place avec dégoût. Peut-être ne valait-il mieux pas savoir de quoi il s'agissait vraiment. Un instant, son regard se perdit par la large fenêtre au-dessus de l'évier qui donnait sur l'Oise. Malgré la nuit, il devina un endroit sauvage, coupé du monde. Pas une lueur, pas un bruit. De temps en temps, des gens devaient circuler sur des barques ou de petits bateaux à moteur, contemplant cet étrange bloc de béton enfoui dans la végétation et se demandant qui pouvait bien habiter là. Ils étaient sans doute à mille lieues de soupçonner quel malade s'y terrait. Frank grimpa à l'étage au ralenti, à bout de force et las de toute cette folie. Dans sa tête, les paroles de Tranché résonnaient encore. Le préparateur avait éliminé Marc Victor parce qu'on l'avait exigé de lui. Ça signifiait qu'on avait peur. Son incursion dans les catacombes et sa fuite avaient visiblement eu pour conséquence de faire exploser le trio maléfique. Le troisième larron avait décidé de se débarrasser de celui que peut-être il jugeait responsable de ce bazar et considéré comme le maillon faible. Pour ce faire, il avait utilisé son bras armé. Et ce dernier était parti avec ses secrets. La chambre, impersonnelle au possible. Un lit et une commode d'un autre âge. Le genre de meuble en une pièce qui pesait une tonne et dont on se demandait toujours comment des gens avaient pu le monter jusque-là. Tranché avait dû investir les lieux en gardant le mobilier des anciens propriétaires. Peut-être s'agissait-il d'ailleurs d'un héritage familial. Charcot saurait tout ça dans les prochains jours. Seule touche de modernité, l'ordinateur portable posé sur une table de nuit. Un modèle Mastoc, clé 4G branchée dans le port USB, accès protégé par un mot de passe. Frank rabattit le capot et s'orienta vers une pile de livres qui prenait la poussière. Des bouquins d'informatique. Hacking pour débutants, Tor et le Darknet, vos premiers pas sur le web profond. De toute évidence, Tranché n'était pas qu'un larbin. Il avait eu les compétences pour créer le site secret de la faille, l'intelligence au service du mal. Coup d'œil à travers les lames des volets qui donnaient sur le jardin. Le fourgon de la BRI au loin, le cadavre et son tablier de boucher toujours étalés au sol. Le chien à tête de porc à quelques mètres de là. Tous les éléments d'un cauchemar rassemblés sous ses yeux. Soudain, Frank tiqua à la vue de l'animal hybride. La maison n'était pas grande. Il en avait parcouru toutes les pièces. Où Tranché avait-il préparé ce masque morbide? Ce genre de manipulation demandait du matériel et laissait des traces, sang, graisse. Avait-il apporté la tête de cochon au CDC pour la vider là-bas et y fabriquer son sinistre couvre-chef? Faisait-il sa tambouille dehors dans un coin du jardin? Où se trouvaient les autres têtes? Charcot refit un tour de l'habitation. Pas de cave. Mais peut-être que... Inspiré, il remonta et s'intéressa au plafond. Là-bas, au bout du couloir, il distingua une trappe munie d'un anneau en acier. Inaccessible. Il devait y avoir une tige avec un crochet planqué quelque part. Histoire de gagner du temps, il alla chercher une chaise en bas et la plaça sous le mécanisme. Puis il glissa son index sous la boucle et tira. D'un coup, une échelle se déplia, le faisant sursauter et manquant de lui fendre le crâne. Avant de monter, il respira calmement, le temps que son cœur reprenne un rythme normal. L'ouverture avait déclenché l'allumage d'une ampoule qu'il entreapercevait déjà sous le faîtage de la toiture. La légère odeur de cuir, pas vraiment du cuir d'ailleurs, mais un mélange de tanin et de bois sec, mit aussitôt sa vigilance en alerte. Il sut qu'il allait découvrir autre chose que de la vieille vaisselle et des décorations de Noël dans des caisses. S'il avait fallu donner une définition de l'horreur, ça aurait pu être la scène qui le frappa quand ses yeux arrivèrent au niveau du plancher. Des visages, partout. Ils flottaient dans l'air comme des masques mortuaires, à des hauteurs et dans différentes positions. Une armée des ténèbres à l'assaut de la lumière, faite de bouches tordues, de nez rongés, de cavités oculaires béantes. Figé sur son échelle, Frank mit quelques secondes à comprendre. Il y avait là une dizaine de faciès d'hommes et de femmes que Tranché avait tendus et accrochés à la charpente avec du fil de pêche. Un monstrueux mobile géant. Charcot termina son ascension, fébrile. Sur le côté, le long de la soupente, une table, une chaise, un lampadaire et du matériel de thanatopraxie, loupe, grattoir, scalpel, acide tannique, pigment. Dans une grande caisse en bois, à droite de la table, un empilement de formes molles, rosées et flasques. Un coffre au trésor, plein de têtes de porcs évidés. Le commandant imagina le colosse enfermé dans le CDC la nuit, en train de prélever les faces des morts à l'aide d'un bistouri. Tailler au niveau du cuir chevelu, descendre en suivant les tempes, introduire ses doigts sous le menton, décoller doucement la couche de peau et de graisse. Puis il devait revenir ici avec son macabre chargement et s'installer là pour racler plus précisément les chairs, les imbiber de conservateurs, les rendre imputrescibles jusqu'à ce qu'elles prennent la texture brune du cuir. Ces gens étaient-ils des défunts qui avaient donné leur corps à la science ou les malheureuses victimes de la faille sur lesquelles la réanimation avait échoué? Charcot penchait plutôt pour cette seconde hypothèse. Bon sang. Il n'en pouvait plus de tout ça. La cruauté, la perversité humaine n'auraient jamais de limite. Dans un flash délirant, il pensa aux visages étranges, grotesques, qui égayaient les jardins d'Étretat au bord des falaises. Au détour d'un petit chemin entre les fleurs, on pouvait tomber là-bas sur des bouilles expressives, tantôt en colère, tantôt grimaçantes. C'était exactement le même concept dans ce grenier, en version trash. Il prit une profonde inspiration et s'aventura dans le dédale de fils tendus, s'enfonçant toujours plus dans ce cimetière suspendu. Il dénombra 5 hommes et 3 femmes, dont l'âge était difficile à déterminer. Le tannage avait gommé toutes les rides. L'absence d'yeux de verre, quant à elle, n'arrangeait rien. Ces trous ouverts sur le néant étaient aussi perturbants que terrifiants. Frank espérait juste que l'enfer existe réellement. Rien que pour y accueillir Stéphane Tranché. Intuition ou conscience professionnelle, Charcot entreprit, en dépit du froid glacial qui l'enveloppait désormais, de scruter avec soin chaque monstruosité. Il le savait, ce spectacle viendrait épaissir le catalogue de sa souffrance, s'imprimerait pour longtemps dans les circonvolutions de son cerveau, des images qui ne manqueraient pas de ressurgir dans ses cauchemars. Mais l'expérience lui avait enseigné qu'il fallait toujours aller au fond des choses, y compris dans l'horreur. En un instant, toute la douleur, la tortuosité, l'incompréhension et la violence que brassait cette enquête se résumèrent aux deux trous béants de cet ultime visage qu'il découvrit. Charcot se recula d'un coup et ne put s'empêcher d'émettre un étrange hurlement. Il avait à la fois voulu le pousser et le retenir. Son talon buta contre une latte de plancher, ce qui le fit basculer vers l'arrière. Au moment où il chutait, ses bras s'empêtrèrent dans les filins, activant un mouvement général des masques, comme le vent glissant dans le feuillage d'un arbre. La foule muette et en colère s'agita, les bouches difformes criant des reproches. Le policier peina soudain à respirer. Il se redressa au bord de l'asphyxie et s'élança sur l'échelle qu'il dévala en quatrième vitesse. Il cherchait Emma Doty depuis le début. Il l'avait enfin trouvée. Tout au moins, ce qu'il restait d'elle.